Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la chronique animaliste par L214 sur Jet FM. De Plutarque à Florence Burga, de Étienne de Condillac à Peter Singer, la cause des animaux est un ensemble de constats et de propositions qui a occupé et qui occupe énormément de penseurs et de penseuses. Des milliers de livres, d'interviews médias, de documentaires existent avec pour objectif de sensibiliser notre espèce à l'urgence morale de redéfinir notre rapport aux animaux autres qu'humains. Pourtant, la cause animale s'apparente presque à une cause sans cesse perdue au regard de ce que l'on fait subir chaque jour à des milliards d'êtres sensibles et sentients sur la planète. Le sort réservé aux animaux autres qu'humains est la cause de souffrances infinies, en quantité comme en intensité, et la préoccupation que l'on a de défendre ces milliards de victimes est sous-proportionnée. Le monde humain va qu'à ses occupations, sans même oser questionner en profondeur son rapport aux êtres qu'il exploite. La cause animale semble être une cause majeure selon les individus qui combattent pour, mais une cause mineure pour une bonne partie des êtres humains. Alors aujourd'hui, nous allons remettre les choses à plat et nous allons tenter de répondre à cette question, pourquoi la cause animale est-elle une cause importante ? Pour mesurer l'importance d'une cause, il y a plusieurs critères qu'il est raisonnable d'étudier, notamment quelles sont les victimes que l'on défend, l'intensité et l'ampleur du sujet de cette cause. Ici, il s'agit de comprendre que les animaux que l'on exploite sont des victimes, de comprendre ce qu'ils subissent concrètement, de comprendre l'importance du mal dont ils feront l'expérience, de la souffrance produite. Il s'agira de dévoiler l'ampleur de ce mal, c'est-à-dire le nombre d'individus qui seront concernés. Alors, en tout premier lieu, il est un concept qu'il faut immédiatement aborder, c'est celui de la sentience. Dans les chroniques animalistes, je parle d'une notion impérative à prendre en compte lorsqu'on réfléchit aux animaux que l'on exploite. C'est le fait qu'ils ont un point de vue subjectif sur leur environnement, qu'ils ont une vie mentale. Cela rejoint complètement le concept de sentience, souvent utilisé dans la cause animale. Éprouver le monde de manière subjective et faire l'expérience des événements qui se déroulent. Je rappelle que les animaux que l'on exploite sont des individus sensibles, pour la plupart dotés d'un système nerveux central. D'ailleurs, une cohorte d'études scientifiques et d'observations à ce sujet nous permet de déduire qu'ils sont conscients, ou à tout le moins, qu'ils produisent des états cérébraux propres à une forme de conscience. Penser l'animal comme une sorte d'automate qui ne serait conduit que par des réflexes, sans une interface consciente ou un monde mental, d'ailleurs, entre parenthèses, que nous nous sommes attribués exclusivement pendant des siècles, eh ben c'est quelque chose de récusé par la communauté scientifique. N'en déplaise à Descartes, les animaux possèdent un système nerveux qui récolte et traite un nombre impressionnant de données, et au final produit une expérience subjective unifiée à partir de ces informations. Cette expérience, ce monde perçu et vécu selon des outils sensoriels, les biologistes l'appellent Umwelt, le monde propre à, le monde selon. Ces outils varient entre les différentes familles d'animaux, et à mesure que l'on s'éloigne dans la chaîne phylogénétique de notre espèce, et que les systèmes nerveux diffèrent, la différence des expériences conscientes est croissante. Comme l'écrivait Thomas Nagel, il nous est impossible de savoir quel effet cela fait d'être une chauve-souris. Par exemple, imaginer précisément ce que cela fait de se localiser dans l'espace grâce à l'écholocalisation nous est parfaitement impossible. Mais cela n'empêche en rien d'admettre que les animaux ont leur propre monde mental qui nous sera effectivement toujours un peu étranger. Et c'est aussi cette complexité ponctuée de mystères qui est fascinant dans le monde du vivant. Mais la question est, pourquoi nier la sentience d'individus sous prétexte que leurs expériences sensorielles sont très différentes des nôtres ? On sait que lorsqu'on étudie un concept en science, plus on se rapproche du bord, plus il a tendance à s'effriter, à devenir un peu flou. Conscience, sentience ont beau être de moins en moins visibles, tangibles à mesure que l'on s'éloigne de notre espèce, il est pourtant clair que les veaux, moutons, porcs, chèvres, poules, etc. sont concernés par ce concept. Comprendre les animaux, c'est comprendre dans un premier temps que ce qui fait sens pour les humains n'a pas de raison de faire sens pour les animaux qui n'ont pas le même parcours évolutif. Comprendre les animaux, c'est comprendre que leurs spécificités doivent être pensées pour ce qu'elles sont, et non pas pour ce que nous les posséderions ou non. Une fois ce concept expliqué, on peut comprendre un peu mieux qui sont les individus que défend la cause animale. Des soies, certes différents de nous, mais des soies vulnérables, des individus sensibles qui ont une expérience interne de leur vie et des états mentaux associés. Alors en fait, c'est à ce stade que commence à se dessiner la justification de la cause animale. Et oui, elle est tout sauf utile, puisqu'il s'agit de protéger des individus qui souffriront des sévices qu'ils endurent. Ils ne feront pas que subir ces sévices. Ils feront l'expérience interne de ces souffrances. Ils vivront de l'intérieur la douleur, le stress, le froid, le chaud, l'étouffement, la faim, la soif, la tristesse, la frustration, etc.
Ainsi commence ma mise au monde, la chaleur maternelle saura calmer ma peur de la pénombre. Quelques heures auprès d'elle vécues comme quelques secondes, avant qu'on vienne m'en séparer des parts d'une souffrance profonde. On m'a classé comme produit dans un compartiment, seul dans ma cellule à la froideur de mon châtiment. Dans cette boîte étroite, pas de lait maternel, juste un peu d'eau et des compléments nutritionnels. Les complaintes des voisins viennent nourrir mon angoisse, la crainte et la faim succèdent à mon sevrage. Rarement la silhouette de l'oppresseur me fait face, la merde et la crasse seront lavées en surface. Couché, debout, seules activités physiques avant que mon corps ne croule. Une douleur à l'oreille où le sang coule, hier ils m'y ont inséré mon numéro d'écrou. De mon état psychologique, à tort ou à raison, j'attends ma simple mort comme unique délivrance. Car personne ne regrettera mon absence, à part mes tensionnaires qui viendront m'injecter leur substance. Les cris de détresse m'indiquent que certains disparaissent. Mieux vaut crever que passer sa vie en laisse. Ils viennent me trouver, mon corps figé ne suit pas. Impossible d'obtempérer, de quoi suis-je coupable? Traîné comme un poids qu'on oblige à marcher au pas. Je résiste, pétrifié, mais les coups partent. Une lueur apparaît à mes globes oculaires. Serait-ce le bout du tunnel qui marquera la fin de mon calvaire? Une silhouette qui ne m'est pas inconnue apparaît. Elle me guide durement vers l'inconnu. Un reflet vient titiller tous mes sens. Je ressens la lumière et la chaleur de ma naissance. L'instant agréable sera de courte durée, à la surprise de découvrir mes semblables entassés. Tous dans une boîte, la livraison a débuté. Mon voisin vient de crever à mes pieds. Ils nous sortent l'un derrière l'autre, devant moi un détenu qui tube et se vautre. On débarque en file indienne dans ce couloir de la mort. Les cris des premiers disparaîtront au fond du corridor. J'essaye de faire demi-tour mais on m'électrocute. Je panique et je chute. Le fer chaud sur mon front me fera perdre la raison. Je glisse et je crie, agonisant dans mon sang. Encore conscient, suspendu par les jambes, je défile sur une chaîne où d'autres corps s'englampent. Traîné sur quelques mètres avant de voir mon bourreau qui finira par me tailler la gorge au couteau. Tranche de vie.
Pour se rendre compte de l'intensité de ce que subissent les victimes du genre humain, je vous propose une petite mise en situation. Mettez-vous à la place d'un seul de ces animaux. Vous évoluez dans votre espace naturel marin en nageant. Soudain, vous êtes pris dans un filet, qu'un bateau remonte à la surface. Vous ne pourrez plus respirer, votre agonie durera entre 25 minutes et 4 heures avant de mourir. L'équivalent d'une noyade interminable. Peut-être serez-vous même congelé encore vivant. Ou alors, vous êtes venu au monde, dans une ferme, et un quart de votre espérance de vie plus tard, on vous amène dans un abattoir. Vous voyez, entendez et sentez vos congénères se faire égorger les pattes en l'air, et agoniser pendant de longues minutes en attendant votre tour. Peut-être que les individus de votre espèce seront même condamnés à être plongés dans un puits à gaz carbonique. Et lorsque votre tour viendra, on vous enfermera dans une nacelle et vous sentirez vos poumons brûler pendant votre asphyxie qui vous mènera à la mort. Alors, sachez que ce ne sont que quelques exemples des sévices que vous pourrez subir. Je n'ai pas parlé d'écornage ou de castration à vif, d'enfermement dans des espaces si petits que vous ne pouvez vous tourner sur vous-même, ou du fait de ne jamais voir la lumière du jour de votre vie. Alors, est-ce que vous percevez la souffrance dont on parle ? Vous percevez son intensité ? Chacun et chacune d'entre nous refuserait absolument catégoriquement de subir ce dont ces animaux font l'expérience par la faute de l'humain, par notre faute. J'en viens maintenant à décrire l'ampleur de contre quoi la cause animale lutte. Prenez les souffrances dont je viens de parler, ce que vous venez de subir dans cette expérience de pensée. Et maintenant, multipliez-la par 1000 milliards, au minimum. Vous obtiendrez la quantité de souffrance produite volontairement par les humains chaque année sur les animaux. C'est colossal. Devant l'ampleur de ce malheur, le désigner comme désastre moral est presque un euphémisme. Chaque année, on tue au moins 10 fois plus d'animaux sensibles et sentients que ce que d'humains ont foulé la Terre le long de notre histoire. Oui, la cause animale concerne entre 1000 et 3000 milliards d'individus, animaux, marins compris. Parce que nous le répétons, les poissons nous ont donné la preuve de posséder un monde mental qui leur est propre et qui leur permet de ressentir la douleur et le stress. S'il est presque impossible de se figurer ce que représentent ces nombres astronomiques, 1000 milliards, c'est plus qu'énorme. L'intuition d'un désastre moral gigantesque peut quand même se faire sentir. C'est une quantité de souffrance inouïe que nous provoquons, et ce, à chaque seconde. Après cette description, hélas, non exhaustive de la souffrance animale, il reste à comprendre ce qui rend valide cette cause. On pourrait, après tout, croire que c'est un mal nécessaire que l'on ne pourrait pas éviter, comme une fatalité en somme. On pourrait croire que les protéines animales sont encore aujourd'hui essentielles à notre survie, que se vêtir implique impérativement l'usage de cuir, fourrure ou laine. Or, nous vivons dans un monde où les avancées techniques, scientifiques et technologiques permettraient de réduire drastiquement le mal que nous faisons subir volontairement aux animaux. En effet, les connaissances acquises en matière de nutrition, les différentes innovations dans les domaines de la confection textile, tests pharmacologiques et production de cosmétiques autorisent de nombreuses alternatives pour satisfaire nos besoins fondamentaux. Alors, sans oublier les divertissements superflus comme la corrida, la chasse à courre, les cirques avec animaux, qui sont des activités dont le bénéfice commun est infime comparé à la souffrance produite. Il est donc injuste, au regard de nos standards moraux, de continuer à perpétuer cette souffrance colossale. À tout le moins, nous devrions collectivement, dans un grand effort social, réfléchir aux modalités permettant une réduction significative de la souffrance que nous provoquons. Donc, là, nous avons une réponse à notre question. La cause animale est-elle une cause valide, une cause importante ? Eh bien, il est raisonnable de penser qu'une cause s'attelant à minimiser la souffrance d'un nombre important d'individus qui la subissent et la ressentent est une cause qui mérite notre attention, non ? Alors, la tentation existe de minimiser l'importance de la cause animale en la mettant en compétition avec d'autres causes, en les hiérarchisant. En effet, opposer aux animalistes l'importance des causes humaines, qui revêtent une importance capitale et qui devraient obtenir davantage leur attention, est quelque chose de très répandu. Que ce soit dans le cadre de discussions privées ou dans des débats médiatisés. Ces causes sont pourtant tout à fait compatibles et ont même des sources communes. La cause animale est conciliable avec les autres causes dites progressistes ou sociales. Elles sont issues d'un même terrain éthique, d'une même racine morale, à savoir préserver au possible les individus de toute souffrance, nuisance et dommage. Mettre les causes en compétition et les hiérarchiser est loin d'être pertinent et productif. Le critère le plus important à prendre en compte dans la protection des individus est celui de la sentience, concept défini au début de cette chronique. C'est donc tout naturellement que êtres humains et animaux se retrouvent côte à côte dans le camp des individus à défendre. Voilà, j'espère vous avoir donné à penser sur cette cause que trop peu considèrent à sa juste valeur. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine chronique animaliste. D'ici là, prenons soin les uns et les unes des autres, en incluant évidemment les animaux. À la prochaine !
this world in the worst shape that I could find. Sparkling eyes and fluffy ears and a tail that could sweep away all the flies. Fly away. Unfortunately, I couldn't sweep all the plagues away. Seems to happen every fucking day. Press a time, then leave as a sing for equality between the species on the earth under the sea. Eradicate all the misery so each and every animal family breaks free. I came into this world in the worst shape that I could find. Sparkling eyes and fluffy ears and tail that could sweep away all the flies. Unfortunately, I couldn't sweep all the plagues away. And now the nightmare seems to happen every fucking day. There's a time that leaves us a slave. Oh, 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 oh. So let's all sing for equality between the species on the earth under the sea. Eradicate all the misery so each and every animal finally breaks free. So let's all sing, sing, sing for equality sing between the species sing, on the earth under the sea. Eradicate sing, sing, sing all the misery so each and every animal finally breaks free.